Nous sommes de retour et nous allons parler maintenant de World War Korea.
Un rapport avec la Corée, donc.
Il y a un rapport avec la Corée et une guerre mondiale, tout à fait. Alors, je vais commencer en disant qu'il y a quelques mois, j'étais à Bagneux pour le salon Zone Franche, je ne sais pas si vous connaissez. Et j'ai rencontré par hasard un monsieur qui s'appelle Jérôme Verschuren, qui se trouve être l'auteur de World War Korea. Donc il était là, puis... Et donc il m'a présenté son jeu, mais comme il le ferait un lambda, si tu veux. Et ce qui était intéressant, c'est que ça faisait très longtemps que j'attendais une campagne qui soit contemporaine, légèrement fantastique, et qui prendrait place dans un contexte un peu mondial, tu vois. On ne serait pas juste limité à une ville, comme on a souvent l'habitude. Moi, j'imaginais un truc avec des pays à traverser, des pions à pousser sur une grande carte, des choix à faire pour les joueurs, tu sais, pour décider dans quel ordre faire les missions. J'avais pensé à une sorte de mascarade. De mascarade, n'importe quoi. De masque de Nyarlathotep. Vous voyez, vous connaissez, je pense, tous la campagne du masque de Nyarlathotep et sa construction, mais j'attendais un truc plutôt genre 2014, quoi. Et en fait, j'attendais tellement ce genre de campagne que j'avais commencé à en faire une moi-même, avec assez peu de succès d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette discussion avec Jérôme, tout ce qu'il m'a décrit, ça correspondait exactement à ce dont j'avais envie. Donc ma chronique va peut-être être un peu biaisée par le fait que j'avais vraiment envie de voir ce genre de choses. Donc je vais essayer d'être le plus honnête possible là-dedans, mais ne m'en voulez pas si à un moment, il y a un peu de fanboy qui remonte.
Ah mais il n'y a pas de mal, hein.
Il n'y a pas de mal. Alors, World War Korea, c'est un jeu donc de Jérôme Verschuren qui est sorti dans la collection Clé en main, chez les 12 singes. L'idée de cette collection, c'est d'avoir une campagne de jeu de rôle complète, avec les règles et les aides de jeu comprises en un seul bouquin. Ici, c'est au format A5, ou approchant, enfin c'est le format John Doe, je l'appelle, et pas cher. Donc là, actuellement, c'est au prix de 30€. Donc avec 30€, vous avez vraiment tout. C'est vraiment clé en main. Vous avez même des personnages prétirés, vous avez plein de choses. Donc ça se présente sous la forme d'un livret de 64 pages, avec la campagne elle-même. Vous avez 7 fiches volantes avec les règles du jeu, donc elles tiennent sur 7 pages, c'est pas grand chose. Et vous avez une feuille avec quelques caractéristiques pour les opposants, on va dire un petit bestiaire. Il y a 8 fiches qui sont autant de personnages prétirés. Et il y a 8 feuilles d'aide de jeu à découper et une feuille de suivi de campagne, rangées dans une couverture en carton épais qui fait office d'écran et de carte du monde. Donc ça c'est pour l'objet lui-même. Donc c'est assez joli, il y a des illustrations, il y a pas mal d'illustrations. La maquette est pas très aérée, c'est vraiment écrit petit, mais il y a beaucoup d'informations. En ce qui concerne les règles elles-mêmes, donc l'auteur a utilisé une base de DK, du DK2 ou un peu de futur DK probablement, lourdement modifiée et simplifiée pour l'occasion. Pour faire un jet, tu lances 3 dés de 6, tu fais la somme et tu ajoutes une compétence. Donc il y a une vingtaine de compétences qui couvrent un peu tout. Et on doit battre un facteur difficulté. Il y a des points d'héroïsme qui permettent d'améliorer les jets, de faire plus de dommages en combat par exemple, ou d'éviter des coups mortels, bon, les trucs classiques des points d'héroïsme. Chaque personnage possède aussi des atouts, donc des capacités spéciales de combat qui permettent par exemple d'être plus efficace avec certaines armes, de combattre plusieurs adversaires à la fois, ou d'obtenir des bonus par exemple s'il a perdu des points de vie, une espèce de rage ou des choses comme ça. Moi j'ai beaucoup aimé la simplicité et l'efficacité du système, donc tout est dans les 7 pages, tout est expliqué. Ça va très vite, il n'y a pas de prise de tête, c'est expliqué de manière très directe, le style de tout le bouquin est très direct. Bon, moi forcément j'aime bien parce que voilà, c'est quand même sur une base que je connais bien, mais même je pense pour des débutants, ou des gens connaissant pas ce système déjà, c'est vraiment pas très compliqué de s'y mettre, c'est vraiment extrêmement simple. Il n'y a pas de règle de création de personnages, et pour cause, qu'on joue que les personnages prétirés, il n'y a pas de liste d'atouts, on peut jouer que les personnages existants, on peut pas vraiment créer ses propres personnages. Il y en a 8, la campagne est prévue pour à peu près 4-5 joueurs, donc il y a de la marge si un personnage doit mourir ou un truc comme ça. J'ai quand même relevé quelques...
Ou un truc comme ça.
Non, parce qu'en fait, dans les règles, tu peux décider aussi de simplement sortir ton personnage, genre si t'en as marre. De ton personnage, tu peux juste en prendre un autre.
Donc, pour qu'il puisse aller à l'enterrement de Mara, par exemple.
Par exemple.
Exactement. Voilà. Alors, dans les règles, j'ai quand même relevé quelques petits soucis. Juste un petit souci intéressant, amusant, par exemple, pour éviter de relancer les dés pour les dégâts, l'auteur recommande de prendre le jet qui a servi pour toucher. Bon, technique habituelle. Et le problème habituel qui vient avec, c'est que si le jet est élevé, les dégâts le sont aussi. Donc ça donne le syndrome dit du ninja adverse. C'est un ennemi avec une défense exceptionnelle qui est impossible à toucher. Bah, le jour où tu vas le toucher, tu vas juste le détruire instantanément. Parce que ton jet pour toucher sera aussi ton jet pour dommage. Bon, ça c'est juste un petit glitch. Voilà, ça arrive assez souvent dans ce. À chaque fois que tu veux utiliser la marge ou le jet, ça donne ce genre de problème. Pour les joueurs, c'est très simple de commencer à jouer. Ils choisissent un personnage, ils cochent un des deux atouts, une des deux capacités spéciales qu'il y a sur leur feuille, et puis ils se lancent. C'est vraiment. On ne peut pas faire plus simple. Hein. La création de perso et l'explication du monde, il n'y en a pas. L'explication du monde, c'est maintenant. Et la création de perso, c'est 3 minutes le temps de choisir son... Enfin, ou 10 minutes si vous avez des chiants, pour déterminer les personnages qui vont jouer. Alors, la campagne elle-même. Les personnages, justement, au moment où ils se lancent, le maître de jeu leur fait jouer l'introduction. Et cette introduction démarre au moment où les personnages se réveillent à moitié à poil dans un lit d'hôpital. La lumière vacille, il y a des tirs d'armes automatiques qui se font entendre non loin et il y a des morts partout autour d'eux. Donc on peut dire que ça commence assez brutalement. Hein. Donc ils se réveillent là-dedans, ils essaient de s'en sortir, ils essaient de se barrer de l'hôpital. Et ce côté brutal s'arrête pas jusqu'à la fin de la campagne.
Tu vois, toi aussi, tu présentes des jeux de dépressifs.
Ah non, c'est pas dépressif là. Ils se réveillent, il y a des morts partout, il faut qu'ils s'enfuient et ils ont intérêt à réussir s'ils veulent pas mourir dès l'introduction du jeu. Parce que c'est possible.
Et dans ce cas-là, effectivement, les joueurs se dépriment.
À ce moment-là, les joueurs...
Et restent debout tout seuls dans le cimetière.
Non, mais vous allez voir pourquoi c'est pas si grave, en fait. Alors, je vais pas rentrer dans les détails pour éviter de spoiler, mais il faut savoir qu'on parle, dans le jeu, on parle de conspiration, de guerre mondiale à partir de la Corée, donc, hein, d'où le nom. On parle de... Le thème, c'est la biotechnologie, les infections virales, les monstres mutants et l'écologie. Donc moi, j'adore ces thèmes. Autant la manière de les présenter... de présenter la géopolitique dans le jeu, ça m'a fait un drôle d'effet. J'avais l'impression de lire une histoire que, si tu veux, j'aurais pu écrire un peu plus jeune, tu vois, adolescent, après avoir vu un épisode de G.I. Joe. Y a des mouvements de blocs, par exemple, géopolitiques que moi je trouve difficile à avaler, genre tel pays fait tel truc, tel autre pays fait tel truc, et tu vois, ça s'embrique comme ça, et je trouve ça un peu violent et rapide. Ça va un peu trop vite, les conspirations sont trop puissantes et efficaces, tu vois, t'as une espèce de conspiration... super balèze et en fait d'un coup on apprend que les mecs ils savent tout, ils sont partout, il y a un truc marrant d'ailleurs.
C'est un scénario la Call of Duty ça.
ouais bah, ça fait un peu Call of Duty effectivement et puis ils sont super balèzes donc les mecs ils sont je sais pas 10 millions sur la Terre dans cette organisation là et ils ont comme principe de jamais utiliser la technologie donc ils peuvent pas se téléphoner donc je sais pas comment tu organises 10 millions de gens sans un moyen de communication.
10 millions de mecs et 20 millions de pigeons.
Ouais c'est ça. De pigeons voyageurs,
oui, tu vois. Oui, j'entends.
Mais non, mais c'est ça, je me dis, tiens, tu vois, c'est sur des petits points comme ça, je dis, ah bon, faut quand même avaler le truc avant d'aller plus loin. Et sur l'instant, ça m'a fait bizarre. Et en fait, ça m'a fait tellement bizarre que j'ai mis plusieurs jours, j'ai lu ça, je dis, oh putain, c'est de la merde, j'étais un peu dégoûté. Et j'ai mis plusieurs jours avant de le relire, en fait, de continuer. Et finalement, de trouver ça pas mal, notamment les scénarios. Il y a par exemple, il y a un autre truc, il y a des genres des soldats, des super soldats qui sont invincibles, ou quasi invincibles dans le jeu. Et les mecs sont pas 4 dans une unité super mal, ils sont 1 million quoi. Donc tu vois, c'est des trucs un petit peu comme ça qui me surprennent. Il y a pour ceux qui connaissent, il y a un épisode de Community. Vous connaissez Community, non ?
Oui, oui.
Ouais, de la saison 5 qui s'appelle le G.I. Jeff, il me semble, ou qui est tout en dessin animé. Et t'as tout un dessin animé entier avec vraiment années 80, avec des 3 frames, quoi, 3 images par seconde, qui explique la géopolitique vue par les Américains de G.I. Joe. Voilà, au début ça m'a fait un peu ça. Alors, en vrai c'est pas ça. C'est-à-dire que ça commence comme ça, c'est vrai que ça peut surprendre, mais en vrai, c'est pas aussi mauvais que ça.
Ça fait aussi un peu penser à L'Aube Rouge, ce fameux film anticommuniste de la fin des années 80 où le réalisateur fantasmait un conflit avec les Russes qui envahissaient le Texas. Il a récemment été remaké et c'est les Coréens du Nord qui envahissent le Texas.
Il y a un truc avec les Coréens en ce moment, il y a quelque chose qui se passe.
Voilà, tu vas éviter de spoiler la campagne, s'il te plaît. Parce que je pense qu'il y a peut-être une inspiration, parce que les joueurs sont des Texans, justement, qui se réveillent dans... Mais c'est peut-être juste une inspiration. Donc après l'introduction, les personnages vont avoir un certain nombre d'indices à suivre et de pistes à explorer. Donc c'est à eux de voir par quoi ils commencent, où ils vont, et surtout jusqu'où ils vont. Chaque piste, c'est un scénario à part entière. Dans lequel les personnages vont enquêter, combattre et dépasser des obstacles. Ces scénarios font en moyenne 2 pages, qui sont écrits petits, donc c'est pas très développé, mais enfin c'est quand même plus développé que le truc précédent, là, les six trésors par exemple, où effectivement là je trouvais que c'était vraiment de la place perdue. Là la place est pas perdue, il y en a partout, c'est écrit petit, c'est dense, mais on sent qu'il a essayé de rentrer tout ce qu'il pouvait dans le format qui lui était imposé, mais en tout cas ça y est, si tu veux, il y a des informations, et le style fait que c'est pas alambiqué non plus et que tu retrouves tes informations facilement. Donc une fois qu'ils ont leur piste, ils peuvent décider ou pas, d'ailleurs en fonction des circonstances, des obstacles qu'ils ont vaincus ou pas, d'aller jusqu'au bout de la piste et de trouver tout ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que chaque piste va présenter une information principale, qui sont quand même sûrs à 90% de trouver, et une ou deux informations supplémentaires qui sont pas du tout obligées de trouver, et s'ils les trouvent pas, bah ça va influer sur le reste de la campagne. Donc c'est pas très développé, je disais, c'est écrit dans un style très direct, avec uniquement ce qui est important. Les objectifs, les opposants, les lieux et les règles spéciales sont écrits dans la piste. Donc par exemple, dans une piste, les personnages se déplaceront en hélicoptère. Dans une autre piste, ils seront en temps limité. Dans une troisième, il faudra sauver des gens. Et plus ils en sauvent, plus ils vont obtenir d'informations. Donc pour chacune de ces pistes, tu as des éléments qui vont être notés par le MJ sur la fiche de suivi de campagne. Donc il a une fiche avec des cases à noter, enfin avec des cases à cocher, avec des choses à faire. Et en fonction des réussites ou pas des joueurs, il va cocher telle ou telle case. C'est cette fiche de suivi, elle va permettre d'influer sur les autres pistes. Par exemple, si tu fais la piste 4 et puis que tu as découvert, je sais pas, un scientifique important qui va venir t'aider, si tu fais la piste 2 après, et ben le scientifique il sera là, il pourra t'aider, te donner des informations ou des bonus quelconques.
Et les interactions entre toutes les pistes sont prévues comme ça?
Ouais, tout à fait. T'as même une arborescence en fait, où ils disent voilà, t'as 5 pistes que tu peux faire avant d'arriver à celle-ci. Une fois que t'as celle-ci, tu peux déboucher sur 3 autres, etc.
Et il prévoit le comment dire, l'avancée des autres fronts qu'ils n'auront pas traités.
Alors, ça fonctionne pas exactement comme ça, mais un peu, ouais. Genre, il y a des pistes, par exemple, s'ils la font en deuxième, voilà ce qui se passe. S'ils la font en premier, voilà ce qui se passe.
Ok. D'accord.
Voilà, c'est pas aussi poussé que l'avancée des autres fronts, parce qu'en fait, tous les fronts avancent en même temps. Encore une fois, je vais pas rentrer dedans, mais c'est vraiment, il y a une organisation globale. Ils vont tenter de résoudre des situations et d'avoir des informations au fur et à mesure, mais une fois qu'ils ont fait les 12 pistes, ils vont pouvoir arriver à l'épilogue. Fort nantis des informations qu'ils ont et des aides qu'ils ont réussi à récupérer précédemment. Et après, c'est plus ou moins dur de résoudre le combat final, on va appeler ça comme ça, même si on n'est pas un, la situation finale, quoi. Par exemple, dans le cas du scientifique, là, s'il n'a pas été sauvé dans une des pistes, il va quand même être remplacé par exemple par un autre scientifique, mais qui sera moins balèze. Donc ils auront quand même l'information principale, mais c'est plus dur, ils n'auront pas de bonus, ça va être compliqué. D'accord ? Il y a un point qui est intéressant, c'est que les joueurs peuvent tout à fait foirer les pistes, même la piste principale. Donc dans certains jeux de rôle, il y a des encadrés qui expliquent comment retomber sur ses pieds si les joueurs ratent. Ah attention, ils vont pas dans le bon sens, essayez de rebondir comme ça. Ici, bah, ils ratent, ils ont pas l'info, ils protègent pas les gens, ils rentrent pas dans les bons endroits, bah, c'est pas grave, la piste va être abandonnée, tout simplement. Les autres sont toujours disponibles, donc il y a toujours de quoi jouer. S'ils arrivent, je sais pas, n'importe quoi en Espagne, et puis qu'ils n'arrivent pas à résoudre le problème en Espagne, bah, ils ont un truc au Liban, mais il faudra aller au Liban. Et tant pis, ils auront raté l'Espagne. Donc c'est pas très grave. Il y a une trame principale à découvrir et à comprendre. Comme je disais, il y a deux autres trames optionnelles qui sont plus ou moins difficiles à suivre. Il y en a même une, ils disent elle est quasi impossible, sauf si les joueurs font ça, ça, ça et ça. C'est le one true pass, tu sais, des livres où vous êtes les héros. C'est s'ils font ça, ça, ça et ça, ok, ils auront cette piste-là. Donc je trouve ça intéressant, cette gestion de l'échec. Chacune des pistes donnera une fin différente lors de l'épilogue. Je sais pas si vous vous souvenez de Fallout. Vous avez déjà joué à Fallout ?
Oui.
Quand tu finissais Fallout, toutes les actions que tu avais fait dans le jeu, elles prenaient place dans un long épilogue à la fin. Et à chaque fois, tu disais, bah voilà, tu avais sauvé les super mutants, bah il se passe ça, les super mutants deviennent ci, ça et ça. Ah bah là, il se passe pas ça, t'as raté les super mutants, ils sont tous morts, bah donc maintenant c'est une plaine désolée. Tu te souviens de ça ? Bah là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont ils auront résolu telle ou telle situation, bah l'épilogue va changer. Ce qui donne une espèce d'arborescence de fin possible assez intéressante.
Et le tout avec une musique militaire et le drapeau américain dans le fond. Et un aigle qui passe au-dessus.
Dans Fallout, oui, il y avait ça, mais c'était pour se moquer. Donc voilà, alors, donc au final, donc, malgré quelques petites erreurs dont j'ai déjà parlé, moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc c'est rapide, c'est fun, c'est plein d'actions. Vraiment, il y a toujours plein de choses à faire, tout le temps, pour les joueurs. Ça commence quasiment tout le temps in medias res. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils décident d'aller vers une piste, ils sont dans la piste, et ça j'aime beaucoup le principe. Il n'y a pas de « Oh, on y va, ça va être compliqué, machin ». Non, t'y vas pas. Ouais, bon, t'y es, t'es dans la boue, allez, on démarre.
Tu vois, c'est un FPS, en fait.
Ouais, ça fait un peu FPS, ouais, mais bien fait, tu vois.
Ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Ouais, carrément même. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien le principe. Le style et la présentation des scénarios me plaît beaucoup parce que c'est dense et c'est plein d'informations utiles.
Si, il y a des énigmes, faut trouver la clé bleue pour aller dans la porte bleue, tout ça. Bon, c'est un peu dur. Et puis t'as des crânes en flammes qui flottent.
Bah non, c'est pas encore ça. Non, je disais, donc les scénarios sont écrits, c'est assez dense, c'est plein d'informations. C'est plutôt pour les MJ pas trop débutants, parce que pour rajouter des trucs au milieu, bah il faut un peu d'imagination, puis faut avoir une capacité d'improvisation. Enfin, sinon le cœur y est, si tu veux. Donc j'ai déjà parlé des masques pour la manière dont les scénarios sont organisés entre eux, mais ça m'a fait penser aussi au réseau divin, si vous vous souvenez. Dans l'esprit et l'ambiance
de Pat et Chris.
Ouais, de Pat et Chris, ouais. Dans l'ambiance qui était donc paru dans Casus Belli il y a une quinzaine d'années, dans les numéros 100 à 106. Mm-hmm. Donc il y avait une ambiance fin du monde. Et surtout, il y avait plein de choses à faire, il y avait tout le temps de l'action, il n'y avait jamais de temps mort, et les épisodes s'enchaînaient sur des trucs toujours plus grandioses l'un après l'autre. Bah là, c'est un peu ça, en fait.
Les épisodes étaient sonorisés.
Et les épisodes étaient sonorisés, ouais. Alors, j'ai pas vu de... Il y a des inspirations, mais j'ai pas fait attention.
Il n'y a pas de bande-son.
J'ai pas fait attention à la bande-son, il y en aura une dans Americana, je crois, mais... Mais là, j'en ai pas vu. Mais en attendant, tu vois, c'est toujours enlevé. Tu rentres dans une piste, paf, il y a tout de suite des choses à faire. Il y a tout de suite un mec à aller trouver. Il y a tout de suite des gens à aller sauver. Il y a tout de suite un laboratoire à explorer. Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça. Il y a aussi un autre truc que j'aime bien, c'est le principe de... Je n'en ai pas parlé dans les règles parce que ça fait un peu partie du... Je spoil un tout petit peu. Mais en gros, les joueurs vont avoir à un moment la possibilité de déterminer leur niveau de puissance. C'est-à-dire que je vous ai parlé des points d'héroïsme qui permettaient par exemple de relancer des jets ou de faire plus de dommages. Bah, à un moment, ces points d'héroïsme ne seront plus limités. C'est-à-dire que les joueurs vont dire « Ah bah tiens, j'ai besoin d'un point, je vais le dépenser là. » Et le maître de jeu va faire « T'es sûr ?» Ouais. Et le maître de jeu, il va cocher secrètement un truc derrière sa feuille. Donc, derrière son écran, sur sa feuille. Et donc, les joueurs vont pouvoir, à volonté, comme ils le souhaitent, avoir plus ou moins de puissance. Sauf qu'au bout d'un moment, ils vont comprendre que hein, puissance, responsabilité, tout ça. Et donc, au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que le fait d'utiliser des points d'héroïsme va influer sur le monde. En pas bien, généralement. Donc, c'est vraiment un désavantage. Donc, est-ce qu'ils vont choisir de la puissance personnelle à un instant donné en échange de l'assombrissement du monde, on va dire, ou est-ce qu'au contraire, ils essayent de ne pas utiliser leur point d'héroïsme, donc d'être moins balèze en échange d'une fin un peu plus heureuse.
Et d'être finalement les vrais héros.
Probablement qu'ils seront un peu entre les deux, parce qu'ils sauront pas, parce qu'ils auront des trucs. Et le maître de jeu qui va essayer de leur poser des choix constants, tu sais, en disant t'es sûr que tu veux pas utiliser un point parce que quand même c'est difficile, etc. Non mais tu vois.
D'accord, c'est le vil tentateur en fait.
Ouais, c'est ça qui est marrant, c'est de dire tu proposes des choix qui fait que est-ce que vous voulez gagner de la puissance maintenant, mais en échange ça va être un petit peu dommage et sur la fin vous risquez de vous faire avoir.
Mais
ça, je trouvais ça.
Je crois que c'était le principe des dés inversés qui avait été utilisé pour la première fois par Chaos 1700, je sais plus combien, qui était le premier.
Ouais, chez 12 singes aussi.
Standalone, ouais. Des 12 singes, où en gros, à la base, dans le DK système, l'idée c'était le MJ envoyait des dés, enfin des dés crasses, et les joueurs les récupéraient pour pas les utiliser ensuite. Et,
là, c'est l'inverse.
C'est-à-dire que les joueurs balancent de la crasse, ils en ont autant qu'ils veulent, mais par contre, elles sont soigneusement stockées par le MJ qui va te les renvoyer dans la tronche.
Tout à fait. Bah, c'est un peu le même principe, ouais. C'est exactement ça. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. C'était très sympa. Il y a vraiment cette ambiance de fin du monde, de trucs décadents, de grands puissants, de technologie hyper balèze, mais en même temps pas. De monde qui devient de plus en plus dégueulasse, de monstres qui apparaissent, etc. En fonction des niveaux de l'avancée de la campagne, des fronts, comme tu disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment très intéressant, il y en a partout, il y a plein de petits éléments, et je pense que les joueurs peuvent pas s'ennuyer avec ça. Vraiment pas. Donc voilà.
Alors qu'est-ce qu'il y a comme type de on va dire d'épreuve?
Y en a une où tu dois par exemple tu arrives sur une station de pompage du pétrole qui est en pleine tempête, qui est en train de se détruire, et au moment où tu débarques en hélicoptère, il faut que tu t'aperçois que le truc est en train de s'effondrer dans l'eau, et donc il faut aller sauver des gens, et tu as une personne à les récupérer au minimum. Donc ça, c'est genre un savant important. Et si tu le récupères pas, bah déjà, t'es dans la merde. Et ensuite de ça, si tu assures vraiment bien, tu vas pouvoir aller chercher non seulement lui, mais en plus les autres scientifiques de la base ou des ingénieurs qui vont pouvoir t'aider par la suite, des choses comme ça.
Ok.
Tu vois, ça peut être ça. Et tu débarques directement là-dedans. Et après, t'as des jets à faire. Tu choisis si tu restes près de l'hélicoptère pour éviter qu'il tombe dans l'eau, pour que vous puissiez vous barrer facilement. Ou si tu restes... Si tu restes sur la station aider les gens, enfin c'est encore une fois des choix tout le temps. Moi c'est ça que j'aime.
Okay. Très bien.
Il y a aussi un truc qui fait que les joueurs peuvent difficilement mourir, on va dire, en vrai. Si tu veux, quand ils meurent ou quand il leur arrive un truc très grave, c'est du temps perdu, et le temps c'est super important.
On leur impose un malus, mais ils continuent quand même à jouer.
Exactement.
Quoi.
Je crois que c'est Pascal Obispo qui avait dit que le temps c'était de l'amour. Je crois.
Oh, putain, la vache.
Ah, c'est la pire blague, arrête. non mais alors le temps c'est pas de l'argent, c'est vraiment très très important. C'est qu'ils sont en temps limité, ils ont leur piste à explorer, et même au sein d'une piste par exemple, t'as parfois des compteurs de temps.
Jean-Baptiste ne reviendra plus.
Jamais. T'as des compteurs de temps, c'est-à-dire que tu dis bah voilà, si tu passes trop de temps à faire ton enquête parce que ça fait chier tout le monde, hop, je te coche des cases et tu vas meurfler.
D'accord.
C'est cool parce que ça résout le problème de la mort du PJ où ça emmerde tout le monde parce qu'on est obligé d'en recréer un et de le réintégrer de façon pas cohérente dans le groupe. Là, il meurt pas, mais il y a vraiment un truc très grave qui se passe.
Voilà, c'est assez pénalisant pour l'ensemble. C'est pénalisant pour l'ensemble. Donc c'est bien, c'est pénalisant, mais en même temps, t'es pas là en train de te refaire ton perso ou de changer des trucs, quoi. À la fin, ma seule conclusion, c'est que je conseille très fortement ce jeu aux gens qui adhèrent à ce genre de principe. Voilà.
Ah bah c'est marrant, tu vois, mais moi je l'ai, je l'ai pris aussi, et je lui aurais pas donné sa chance comme ça, tu vois.
Je te dis, les deux premières pages, elles m'ont fait vraiment tout drôle. Hein. Je suis tombé de ma chaise direct en disant oh, putain merde quand même, je m'attendais à autre chose. Mais en fait, ça passe. C'est dans un délire cinématographique.
Ouais.
C'est pas pire que un James Bond quelconque, quoi.
Ouais. Non, mais tu l'as bien vendu. Ça, c'est plutôt pas mal.
Voilà.